sortie de boîte.
J'ai rendez-vous ce matin-là à 8h. Pas habitué à rencontrer du monde aussitôt, je m'exerce la voix avant de sortir de la voiture et espère vivement un bon café chez mon invité, ou plutôt au siège social de l'entreprise. Je pénètre dans un immeuble et me présente à la réception. On se trouve bien loin des chantiers. Pas de traces au sol, pas de décrotoir à l'entrée du bâtiment, ni de truelle. Ça peut surprendre pour une entreprise de construction. Mais quand on emploie une centaine de personnes, il faut évidemment aussi du monde au bureau. Rien ne fait donc référence à la maçonnerie, si ce n'est dans le couloir, ce mur de briques apparentes tiré au cordeau. Mon invité m'accueille et me propose un café, heureusement. Sur son bureau, les étagères alentour, des piles de documents, tous bien alignés. C'est que mon invité, même retraité, a de multiples casquettes. Pierre Parietti, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
Pierre Parietti, donc vous êtes le président du conseil d'administration de Parietti et Gindra. Pendant une vingtaine d'années, vous avez été le directeur de l'entreprise. Vous êtes donc la quatrième génération. C'était une évidence pour vous de vous lancer dans ce milieu-là?
Non, ça n'était pas forcément une évidence, mais ça s'est fait un petit peu par la force des choses, puisque après ma formation, après l'obtention de la maturité à Porrentruy, maturité scientifique, il y avait pas mal de pistes qui étaient ouvertes, et puis j'étais quand même plutôt un technique mathématique, j'hésitais avec la physique, avec les maths, et puis pour finir, je suis parti en formation d'ingénieur d'ingénierie, ingénieur civil à Zurich, et puis après, ben, ça s'est fait un petit peu naturellement, d'abord quelques stages, après un passage également dans un bureau d'ingénieur après l'obtention de mon diplôme, dans un bureau d'ingénieur dans la région vaudoise, travaille également pour une entreprise générale, et puis après, retour sur le marché jurassien pour débuter cette activité.
Alors, on va revenir un tout petit peu plus tôt. La vie zurichoise, au Poly à Zurich, ça ne vous a pas séduit plus que ça? Vous y étiez quoi, trop attaché à la joie?
Je crois qu'il y a un problème d'attachement de ce côté-là, et puis comme la plupart, je ne veux pas dire tous, mais comme la plupart des jurassiens, il y a cet attachement qui est très profond, et c'est vrai que assez régulièrement, départ de Porrentruy pour aller à Zurich le dimanche soir, retour le vendredi, passer le week-end avec les copains, avec la famille, et puis voilà, c'est vrai que la vie zurichoise n'a pas été sans autre ma tasse de thé, mais avec un petit peu de regret aujourd'hui, parce qu'on a raté certaines choses.
Et pourtant, après vos études en 76, vous n'êtes pas revenu tout de suite dans l'entreprise familiale de Porrentruy, vous partez quand on ne vaut, pour quelle raison?
Parce que c'était des années qui étaient difficiles. On avait vécu le choc pétrolier en 1973 avec des fortes diminutions d'activité de la construction, et puis par des relations diverses avec bureaux d'ingénieurs et autres, j'ai eu une opportunité d'aller sur la région morgienne pendant une année pour un petit peu pratiquer le métier de base, dans le fond, d'ingénieur civil. Voilà ces raisons. Et puis après, en 79, nouveau choc pétrolier, mais le pli était pris. J'étais déjà rapatrié sur l'Anjouan, et puis je suis resté dans l'entreprise.
Donc vous avez grimpé progressivement les échelons, mais depuis 10 ans, vous avez quitté la direction. Quelle est maintenant votre tâche au sein de Parietti et Gindra?
Alors, je fonctionne comme président du conseil d'administration. Un président n'a pas de responsabilité, je dirais, opérationnelle directe, mais c'est de réfléchir un petit peu à ce qui se passe autour de chez nous, c'est d'avoir des contacts avec les décideurs, qu'ils soient politiques, que ce soit des investisseurs, c'est de conseiller également l'opérationnel, les gens qui sont à la direction et autres, et c'est ce genre de mission dans le fond, sans parler de ce qui se passe peut-être sur un plan promotionnel ou des éléments, disons, qui sont beaucoup de démarches avant d'arriver à concrétiser certaines réalisations.
Donc les relations humaines, c'est quelque chose que vous aimez entretenir. On va aborder maintenant vos autres casquettes. Vous êtes un politicien, membre du Parti libéral radical. Ça fait environ 30 ans que vous siégez en tant que conseiller de ville à Porrentruy. Vous avez été élu en 2016 au Parlement jurassien. Qu'est-ce que ça vous apporte, la politique?
Ça élargit les horizons. Ça permet d'avoir beaucoup d'échanges avec des gens de tous les milieux, de tous les bords. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement positif. C'est de pouvoir également faire part de ses idées, de ses projets, de ses vues sur le développement, sur les opportunités auquel la commune est confrontée, auquel le canton est confronté, et c'est de mettre aussi un petit peu son grain de sel dans ce genre d'activité.
C'est un atout pour l'entreprise ?
Je suis persuadé que c'est un atout, et c'est un regret dans le fond qu'on peut formuler, c'est que des décideurs d'entreprise s'impliquent malheureusement trop peu dans la vie politique, parce qu'ils auraient beaucoup de choses à apporter, ils ont des idées, ils n'ont pas forcément la disponibilité, ça c'est un petit peu le point faible, mais ils ont des idées, ils ont été confrontés aussi à des options qui sont prises dans leurs entreprises et qui pourraient être également valorisées dans le monde politique, ça c'est sûr.
Autre casquette qui vous prend pas mal de temps depuis 15 ans, vous êtes à la tête de la section jurassienne de la Société Suisse des Entrepreneurs. Vous êtes de plus le vice-président de cette organisation fêtière. Qu'est-ce qui vous motive dans ces mandats ?
La motivation, c'est l'intérêt, dans le fond, d'apporter un peu une contribution. Et puis, c'est d'utiliser les contacts qu'on peut avoir avec des collègues de toutes les régions pour tirer les éléments positifs qu'ils peuvent apporter dans une discussion. Parce que ce qui est valable chez nous est peut-être valable à Saint-Gall, ce qui est valable au Tessin peut être utilisable chez nous. Et ces échanges d'informations et puis de pouvoir partager des fois les soucis, les mêmes problèmes et d'échanger de ce côté-là, ça c'est quelque chose qui est très positif.
On va passer maintenant à l'histoire très riche de Pariéti et Gendra, une entreprise de construction génie civil qui existe depuis 125 ans. Ce sont vos arrière-grands-pères et grands-oncles qui ont monté cette boîte, des immigrés du nord de l'Italie. Et de suite, les affaires ont été florissantes.
Alors, ils ont commencé en 1893, effectivement, en arrivant deux frères depuis la région de Luino, un petit village au-dessus de Luino. Semble-t-il qu'ils ont été très rapidement reconnus comme étant de bons professionnels, puisque l'entreprise était constituée en 1893. La publication, même dans les feuilles officielles à l'époque, ça prenait des mois et des mois. Mais en 1895, on leur avait déjà confié la réalisation, par exemple, de l'église de Bressaucourt. L'église de Bressaucourt, c'est quand même une construction assez spéciale. Et c'est important, c'est un grand volume. Et 2 ans après l'installation d'une nouvelle entreprise, je crois que c'était réjouissant de voir la reconnaissance par les autorités ou la paroisse qui leur a confié ces travaux. C'est un excellent départ.
Au point qu'en quelques années, ils avaient 200 employés, ça paraît gigantesque.
Alors c'est ce qu'on a retrouvé à l'époque, puisque lorsqu'on a fêté le 100e anniversaire, il y a 25 ans, il y avait un certain nombre de recherches qui ont été faites, et on a constaté qu'effectivement, quelques années après, pas 2 ans, pas 3 ans après, mais moins de 10 ans après, il y avait des fiches de paye ou des livres de paye où on comptait 200 collaborateurs différents. Bon, il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, la mécanisation n'existait pas, donc pour faire des chantiers, c'était énormément de main-d'œuvre, de manutention, de transport, de transbordement, avant de pouvoir confier les travaux à des maçons, à des gens qualifiés. Mais ça, c'est le propre de la construction, qui à l'époque avait besoin de très très nombreux, très nombreuses paires de bras.
S'ensuit après de très nombreux chantiers, on ne pourra pas tous les citer, mais ce sont des bâtiments qui marquent encore le patrimoine bâti à travers tout le Jura. Ça donne le tournis quand on est à la tête de ça ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'on n'est pas là pour se pencher sur ce qui a été fait. On utilise ce qui a été fait pour se projeter sur l'avenir et puis montrer qu'on n'a pas perdu la main et que s'il y a des changements dans l'encadrement, s'il y a des nouveaux collaborateurs, eh bien, c'est aussi un challenge de montrer qu'on a les compétences de faire aussi bien que ceux qui nous ont précédés.
On va faire un saut d'une centaine d'années. On se trouve peu après les chocs pétroliers, au début des années 80. La Confédération lance le chantier de la 16. Et là, c'est l'aubaine pour Pariéti et Gendra.
Alors, c'est l'aubaine, oui et non. C'est une perspective assez extraordinaire. C'était de voir que le politique avait trouvé les solutions ou les arguments, dans le fond, pour que les routes nationales s'intéressent au canton du Jura et puis qu'elles mettent en route les travaux de ce qui devenait la 16. 1981, des premières collaborations avec des entreprises expérimentées, mais en sachant aussi que les chantiers n'ont débuté qu'en 1988. Donc il y avait un très long temps de préparation. Dans les bureaux d'ingénieurs, ça travaillait. Et puis dans les entreprises, bien, on attendait, mais on était actifs aussi. Il ne faut pas l'oublier, le canton du Jura venait de se créer. Ça veut dire également qu'il y avait de très nombreux chantiers dans la région de Les Montaignes, par exemple, parce qu'une nouvelle capitale cantonale, ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup d'institutions qui avaient besoin d'avoir un véritable pied-à-terre, que ce soit les banques, les associations, etc., etc.
Je vous propose maintenant de nous rendre sur un chantier, un immeuble à Port-en-Truy. Jean-Michel Probst a rencontré un de vos collaborateurs, Éric Gigon.
Sortie de boîte.
Éric Gigon, vous êtes responsable de production. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire exactement qu'en fait, je supervise la réalisation de nos chantiers, qu'ils soient nos propres chantiers ou des chantiers pour des maîtres d'ouvrage divers, où là, il y a une collaboration avec le responsable du chantier pour le démarrage du chantier, pour le suivi de la planification, pour le suivi financier de ce chantier, jusqu'au moment où c'est qu'on va rendre l'objet à notre client, le maître d'ouvrage. Mmh.
Sur un chantier comme celui-ci, actuellement, il y a combien de personnes qui travaillent ?
Alors, il y a 8 personnes. Mmh. 8 personnes. Il y a encore quelques personnes qui finissent les travaux de gros œuvres, mmh, avec les petites finitions. Et on a une équipe dévolue aux travaux de façade, l'isolation de façade, et une équipe à l'intérieur pour les travaux de crépissage et de finition.
D'accord. On peut aller un petit peu plus près, voir ce qui se passe. Pour vous, c'est toujours particulier de voir la construction d'une maison, justement en tant que chef de projet, lorsque l'on voit d'abord le plan comme on l'a vu en début d'émission, et puis que l'on voit que tout se construit. Vous avez un sentiment particulier aussi.
C'est toujours beaucoup d'intérêt et puis une grande satisfaction de voir les travaux se réaliser, aussi se réaliser de manière conforme à nos attentes, aux attentes de l'architecte, de l'entreprise générale, enfin, etc. D'avoir vraiment l'objet que tout le monde attend à la fin de la réalisation. C'est ce qui nous tient à cœur.
Là, on va juste s'éloigner un tout petit peu de la perceuse pour tout ce que... Là on sera bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour isoler en plus. Hein.
Voilà, exactement. Donc là, ça concerne les cloisons... Il s'appelle séparation dans les appartements où on a des cloisons légères, isolées, de manière à avoir une facilité de construction et puis une isolation optimale entre les différentes pièces des appartements.
Aujourd'hui, la question dans le bâtiment, c'est également toujours les délais. En plus, maintenant, on est début octobre. J'imagine qu'il y a un moment donné où les travaux vont peut-être devoir cesser. Là, par exemple, l'automne, c'est une période parfois qui peut être un peu stressante.
Oui, effectivement, surtout pour les travaux extérieurs, notamment pour ce bâtiment-ci, on a des façades qu'on est en train de réaliser, avec une isolation, un crépissage de finition qu'on doit réaliser absolument avant les temps froids. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri... dans les prochaines semaines, d'avoir déjà des températures assez basses. Donc, sans forcément être un grand stress, on est très attentif à la météo et à nos délais, nos plannings.
On le disait, 32 appartements ici à Port-en-Truy. Les premières personnes pourront habiter ici quand ?
Alors, ça sera au début de l'année prochaine. Mmh. On a encore à définir les dates exactes.
Sortie de boîte.
À l'heure actuelle, Paris-Étiers Gindra compte donc une centaine d'employés. Il faut leur trouver du travail. C'est votre rôle de trouver ces nouveaux clients. Comment on s'y prend ?
Non, ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle de la direction opérationnelle, de rechercher de la clientèle. Il y a beaucoup de filières, dans le fond, pour trouver la clientèle. D'une part, il faut répondre aux sollicitations dont on est l'objet de manière très directe, puisque... on a des clients fidèles qui nous téléphonent, qui sont intéressés par une réalisation, mais on a également toutes les mises en soumission qui se réalisent soit pour des marchés publics, soit pour des marchés privés, par le biais de bureaux d'ingénieurs, par le biais de bureaux d'architectes, voire parfois également d'entreprises générales. Donc il y a de très nombreuses sources pour obtenir des mandats, mais tous les contacts que nous avons, toutes les offres que nous remplissons ne sont... je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, ne sont pas forcément l'objet d'une réussite, parce qu'il y a une concurrence, parce qu'un réalisateur, un maître d'ouvrage, disons très rarement, fait sans autre confiance à une seule et même entreprise, mais qu'elle demande des prix, qu'elle demande des offres, et c'est tout à fait légitime.
Dans l'histoire de l'entreprise, on n'a pas encore abordé la question de l'intégration de Paris-Étier Gendra au groupe suisse Marti dans les années 2000. C'était vital à l'époque, pourquoi ?
C'est pour assurer la continuité, dans le fond, de l'entreprise. C'est une structure, on l'a dit, qui fête ses 125 ans. Je suis le représentant de la quatrième génération. Et puis, bien dans la préoccupation de dire, cette entreprise, elle a une base solide, elle doit être assurée pour l'avenir. Après examen de la situation, c'est ce qui nous a semblé être la solution la plus raisonnable, la plus sensée, la plus constructive en fait pour que l'entreprise perdure et pour que les places de travail soient assurées à nos collaborateurs qui sont très nombreux, qui sont toujours aussi fidèles dans l'entreprise.
Les premières collaborations avec le groupe Marti, c'était le percement des tunnels, le chantier de la 16. Est-ce que les différents ouvrages que vous avez réalisés sur la 16 ont porté l'entreprise ?
Je ne sais pas si ces ouvrages ont porté l'entreprise, mais ça a permis, dans le fond, aux maîtres d'ouvrage, en particulier l'État cantonal, les routes nationales, de constater que nous avions de bonnes compétences, comme toutes les entreprises jurassiennes qui ont travaillé aussi sur le marché de la 16, qui ont pu se profiler, qui ont pu aussi faire valoir leurs compétences. Mais c'est vrai que de pouvoir participer dès le début à des chantiers de cette importance-là, c'est valorisant pour l'entreprise, c'est très valorisant pour les collaborateurs qui ont pu mettre la main à la pâte pour montrer qu'ils ont des compétences, qu'on peut gérer et qu'on peut donner satisfaction dans le fond maître d'ouvrage. Donc c'est un plus important, très important.
Le chantier de la 16 a duré près de 30 ans, mais il a depuis pris fin, enfin. Ça a été compliqué de se relever après ça.
C'était pas de se relever, on n'était pas à terre. Je crois qu'il faut pas le voir comme ça. C'est compliqué, non, c'est la vie des entreprises. Il y a eu d'autres périodes aussi, des périodes lorsque se réalisait la place d'armes à Bure. C'était des entreprises à Joulotte qui étaient actives sur ce chantier. On disait à l'époque déjà, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Il n'y aura plus rien. Il y a toujours eu un marché. Et même pour nos entreprises, ou même pour Paris-Étier Gendra, le fait d'être très actif sur la 16 n'a jamais éliminé ou mis de côté la clientèle privée qui nous fait confiance, qui nous a fait confiance et qui, on l'espère, qui nous fera encore confiance à l'avenir. Donc c'est un marché en plus. Il y a eu des renforcements d'équipes, ça c'est clair. Il a fallu aussi former des gens. Et puis après, bien, ma foi, il faut retrouver peut-être une voilure un petit peu différente. On a des compétences, on a acquis des compétences qu'on peut peut-être malheureusement pas trop valoriser parce que la Transjurane, ben, c'était un des derniers tronçons autoroutiers qui a été réalisé. Et puis on est loin du reste du marché suisse. Le marché suisse ne nous attendait pas pour voir si on savait faire, si on pouvait aller travailler à Bâle ou à Bienne ou à Lucerne ou autre. Donc voilà, ça c'est la vie économique de nos entreprises. Qui ont composé, qui ont très bien composé, et puis après qui ont dû également se redimensionner.
Si on change de casquette pour porter celle du représentant de la Société suisse des entrepreneurs, est-ce que vous avez l'impression qu'on se trouve dans une période de stagnation ?
Alors on se retrouve dans une période qui est assez délicate, effectivement, parce que les marchés ont changé, l'approche ou les approches qui sont faites par certains maîtres d'ouvrage sont plus tout à fait les mêmes. On a affaire à des entreprises totales pour un certain nombre de chantiers ou des chantiers de très grande importance. Et une entreprise totale, elle n'a pas véritablement d'attache sur le marché jurassien. Donc on est confronté à une concurrence qui peut venir également de l'extérieur pour les travaux qu'on peut maîtriser. Mais voilà, on est confronté à cette concurrence supplémentaire. Et puis, il faut y faire face.
Je vous propose maintenant de reprendre notre respiration avant d'aborder l'avenir. C'est la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard, pile à l'heure.
Pile à l'heure. Aujourd'hui, je vous propose de mettre le cap sur la Normandie.
Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, made in Normandie.
On délaisse la campagne normande pour aller en ville, plus précisément dans la ville de Rouen. Cette cité est notamment célèbre car c'est là que Jeanne d'Arc a été incarcérée, jugée puis brûlée vive en 1431.
Nous avons perdu Orléans.
Je veux cette ville. Je veux qu'elle soit brûlée.
Côté monument, Rouen est célèbre pour sa cathédrale, mais aussi pour le gros horloge. Et ne me demandez pas pourquoi on dit gros horloge et pas grosse horloge.
Pourquoi ça ?
Bah parce que c'est comme ça. Le gros horloge, donc, c'est un monument situé dans le centre historique et piétonnier. Il est composé d'un beffroi construit au XIVe siècle et d'une horloge de 1389. À l'origine, le gros horloge ne faisait que sonner les heures. Aujourd'hui encore, on peut voir le mécanisme de l'époque qui a été très peu modifié au fil du temps. Mais depuis 1928, ce mécanisme n'est plus en fonction, il a été remplacé par une horloge électrique. Il n'y a qu'une seule aiguille qui indique l'heure. À la Renaissance, on a ajouté des cadrans. Le gros horloge n'est pas une horloge astronomique, mais donne tout de même d'autres renseignements que l'heure, comme les phases de la Lune.
J'ai demandé à la...
Il y a aussi une partie évidée qui laisse paraître sept panneaux. C'est un semainier. Chaque jour est représenté par un char sur lequel se trouve un dieu de l'Antiquité romaine. Par exemple, Diane, Phobé, la lune. C'est pour quel jour ?
Le lundi au soleil.
Alors au soleil, pas toujours, mais c'est pour le lundi, oui. Sur le gros horloge, vous pouvez voir de nombreux petits moutons. Par exemple, à l'extrémité de l'aiguille. Le mouton, c'est le symbole de la ville de Rouen et ça rappelle son passé drapier, l'époque où, avec la laine des moutons, faisait des draps connus dans toute l'Europe. Si vous avez l'occasion de passer un jour dans cette belle région qu'est la Normandie, allez flâner dans les rues de Rouen et ne manquez pas la visite du gros horloge.
Pile à l'heure.
Comme promis, Pierre Perretti, on va parler d'avenir. Vous êtes donc la quatrième génération, mais vos enfants ne sont pas dans le métier. C'est un crève-cœur, ça ?
Non, ce n'est pas du tout un crève-cœur. Moi, je n'ai jamais été confronté, disons, à une situation qui voulait que, par définition, un des enfants doit suivre la voie qui a été, entre guillemets, tracée ou suivie par son père. J'ai quatre enfants qui ont, tous les quatre, suivi une bonne formation, qui sont actifs dans la vie professionnelle, qui s'épanouissent dans les choix qu'ils ont formulés. Et puis voilà, donc le crève-cœur, alors c'est pas pour moi ça.
À la direction, il n'y a donc plus de Parietti ni de Gendra. Est-ce que ça veut dire que les décisions sont prises ailleurs ?
Alors les décisions opérationnelles, elles sont prises sur place, sur le marché jurassien. Les collaborateurs sont, ou les responsables sont des gens de la place, qui connaissent le marché, qui connaissent la clientèle, qui sont imprégnés dans le fond du tissu de proximité. Et toutes les décisions opérationnelles, elles sont prises sur la place. L'appui qui vient entre guillemets, de la maison mère au sein du groupe Marti, c'est un appui stratégique, c'est un appui logistique, c'est une confrontation parfois ou une confirmation de mise à disposition de certains moyens dont on ne dispose pas ici, parce qu'ils ne sont pas nécessaires de manière régulière, mais les véritables décisions opérationnelles sont régionales.
On va parler de vous, Pierre Parietti, donc vous êtes âgé de 66 ans, la retraite, ce n'est pas fait pour vous ?
Si, j'ai les droits comme tout le monde, mais je la pratique un petit peu autrement. Il y aura un certain décalage, surtout par mes engagements associatifs. C'est vrai que la SSC m'occupe, m'occupe depuis un certain temps. Il y a plus d'années derrière qu'il n'y en a devant, ça c'est une chose. Et puis après, on verra.
Alors la suite, c'est quoi ? C'est continuer les mandats politiques, continuer...
Écoutez, les mandats politiques, je n'ai pas eu l'habitude d'abandonner en cours de route. Je ne pense pas abandonner en cours de route, sauf cas particulier, mais ça me plaît bien. J'ai le temps, j'aime y consacrer le temps que j'y consacre. Et puis là, comme je l'ai dit au début, il y a des échanges intéressants avec des gens d'un petit peu partout. Et si on peut mettre son grain de sel, si on peut apporter surtout des idées encore, même si on a l'âge où les jeunes ne souhaitent pas sans autre entendre nos idées, on peut quand même les mettre sur la table et puis après les confronter.
Pierre Parietti, nous arrivons déjà au terme de cette émission Sortie de boîte. Je vous remercie d'y avoir participé.
Merci de votre accueil.
La semaine prochaine, Anastasia Lichtier accueille Franck Fournier dans Sortie de boîte. On y parlera d'une application mobile pour rechercher un emploi. Et bien sûr, retrouvez toutes ces émissions sur notre site internet. Une belle soirée à vous tous.